Merci pour cette invitation. Je suis en fait docteur de l'EHESS. J'ai soutenu ma thèse au Centre de recherche historique en 2022. Thèse qui s'intitule « Le bonheur en banlieue verte, une histoire littéraire et culturelle de 1820 jusqu'à l'entre-deux-guerres » et qui a été éditée aux éditions universitaires de Dijon l'année dernière. Enfin, une synthèse en tout cas. Et depuis ma soutenance, je travaille donc à la Maison Raspail et je m'occupe du fonds d'archives de l'écrivain Henri Poulaille, qui était un écrivain prolétarien. Donc, voilà, on a beaucoup d'activités à la Maison Raspail pour faire connaître ses archives. Donc je suis salariée de la ville de Cachan, mais je reste associée au Centre de recherche historique pour ses activités. Et aujourd'hui, donc, je suis très heureuse de vous présenter une partie de ma thèse. D'abord, l'expression « banlieue verte », vous expliquer en quel sens je l'entends, c'est une expression que je reprends à l'historien Alain Faure. Elle désigne les environs campagnards de Paris, les champs, les bois, les villages et les bourgs, les espaces de culture agricole, puisque dans la première moitié du XIXe siècle, la banlieue est encore essentiellement rurale. Et c'est bien cette banlieue campagnarde, champêtre, qui m'a intéressée pendant ma thèse, et qui était d'ailleurs surtout appelée environs de Paris ou campagne pendant le XIXe siècle. Ce sujet du bonheur dans une banlieue champêtre m'est venu parce qu'en études littéraires, il n'existe pas d'histoire longue sur la banlieue, sauf une thèse très récente qui est parue en septembre d'Aurore Pérol, mais c'est une thèse sur la banlieue et pas sur le bonheur en banlieue. La banlieue était abordée en études littéraires, surtout à travers des monographies d'écrivains. Celle qui était surtout retenue, c'était l'image noire de la banlieue, celle des usines, des pavillons délabrés, de l'exclusion, du malheur. On pense d'emblée à la banlieue chez Louis-Ferdinand Céline. Or, l'imaginaire d'une banlieue de verdure propice à une palette d'émotions heureuses comme la joie, l'ivresse, la liberté, l'encanaillement, mais aussi le repos, la détente, l'harmonie familiale dans la nature, est en réalité bien plus durable et plus ancien que celui de la banlieue noire. Et c'est cet imaginaire heureux et vert que j'ai voulu retracer pendant ma thèse. Durant le XIXe siècle, il existe une quantité importante de romans, nouvelles, poèmes, tableaux de mœurs dans lesquels la banlieue verte apparaît comme un paradis pour les citadins, un ailleurs rêvé, aimé, désiré, pratiqué et habité. Les personnages de toute classe sociale s'y précipitent les jours de beau temps, qu'ils soient d'origine aristocratique comme chez Balzac dans le Bal de Sceaux, qu'ils soient aussi ouvrières, ouvriers, étudiants accompagnés de grisettes, qui sont les petites ouvrières de la couture, jusqu'à l'enfance orpheline chez Victor Hugo et chez Eugène Sue ou Hector Malot. Mais le bonheur qui m'a intéressée, c'est celui qui est recherché et expérimenté par la classe moyenne parisienne, composée de boutiquiers, de vendeurs, d'employés, ou bien de rentiers sans titre de noblesse. Ces personnages m'intéressent pour avoir en commun certaines valeurs, comme le désir de distinction sociale, l'esprit d'économie, parce qu'ils ont un certain rapport au travail et aussi à la politique. Leur point commun, c'est qu'ils sont indifférents à la politique. Et c'est ces vies sans histoire qui m'ont intéressée. Ces personnages ont aussi en commun trois usages de la banlieue, qui correspondent à différentes quêtes de bonheur. La partie de campagne, c'est la journée qu'on passe en plein air, le dimanche de beau temps, entre amis ou en famille, pour se divertir. La retraite en maison de campagne, que ce soit pour la villégiature de fin de semaine, la villégiature le temps de la belle saison, ou bien pour la retraite, disons, de la vie laborieuse. Et enfin, et ça c'est propre à l'entre-deux-guerres, l'installation pavillonnaire dans des lotissements. Et ces pratiques questionnent le rapport au chez-soi, à un ailleurs qui peut être fantasmé, à la ville et à la nature, mais aussi le rapport entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Ces projections et émotions évoluent avec le développement des façons de s'approprier la banlieue dans la société, donc avec la mutation des divertissements, des lieux de loisirs en vogue, avec l'essor de certains modes de transport, avec l'expansion de la villégiature, la diffusion du goût pour la propriété et la démocratisation des loisirs hors de Paris. Les temps pour soi des personnages en littérature sont en effet fortement liés à l'émergence d'un désir d'oisiveté et de vacances au sein de la bourgeoisie et d'individus de plus en plus modestes, fondé sur un principe d'imitation des privilèges qui était réservé à une élite aristocratique avant la Révolution, qui se distinguait par des usages des environs de Paris comme la promenade dans des bois ou le séjour dans un domaine surnommé sa campagne à la belle saison. Le corpus que je prends part de l'écrivain populaire Paul de Kock, pour ensuite aller vers Zola, Maupassant, Victor Hugo, pour le 19e siècle. Et pour l'entre-deux-guerres, je prends les auteurs Eugène Daby, André Beauclerc, Marmouset et Raymond Queneau. L'idée, c'est aussi que leurs genres littéraires sont extrêmement différents, mais qu'ils prennent en charge à chaque fois cette question du bonheur de la classe moyenne. Et pour l'entre-deux-guerres, j'intègre aussi le cinéma populaire, des films de Jean Renoir, d'Augusto Genina, Maurice Lehmann, Julien Duvivier, du fait des liens que ces films entretiennent avec la littérature. Et à partir de ce corpus, mes questions sont les suivantes. Comment la recherche d'une expérience heureuse en banlieue apparaît et évolue-t-elle en littérature puis dans le cinéma populaire? Comment est-ce qu'elle est mise en texte et écrite? Et pour ce qui est de l'écriture du bonheur, je compare la littérature avec d'autres écrits qui circulent sur la banlieue en même temps que les écrits littéraires, c'est-à-dire par exemple les guides dans les environs de Paris, et pour l'entre-deux-guerres spécifiquement, les reportages et les récits d'apostolat missionnaire en banlieue, dans les lotissements. Autre question que je pose, c'est comment certains récits de bonheur contribuent-ils à forger une mémoire heureuse en banlieue? Alors pour l'intervention d'aujourd'hui, je vais me concentrer seulement sur la partie de campagne, puisque sinon ce serait trop dense et je ne pourrais pas entrer dans certains détails. Et en plus, la partie de campagne illustre bien cette relation entre littérature et formation d'un imaginaire heureux de la banlieue. Les questions que je vais me poser aujourd'hui avec vous, c'est donc quel type d'image de la banlieue est-elle façonnée au XIXe siècle à travers les récits de parties de campagne? De quelle mémoire ce récit ensuite fait-il l'objet? Dans un premier temps, je vais vous montrer l'entrée en littérature du bonheur en banlieue verte chez Paul de Kock, ensuite les fissures et du bonheur coquien dans la littérature de la seconde moitié du XIXe siècle avec Zola et Maupassant, et enfin questionner les nostalgies de la banlieue du temps de Paul de Kock, la moitié du XIXe siècle jusqu'à l'entre-deux-guerres. Pour ma première partie, la partie de campagne est le plus souvent associée, en tout cas en histoire des représentations, je pense aux travaux de Julia Sergaux, aux scènes de la peinture impressionniste ou de la littérature naturaliste, mais la partie de campagne, comme journée heureuse en banlieue verdoyante, apparaît en fait plusieurs années auparavant dans la littérature populaire de la première moitié du XIXe siècle et plus spécifiquement dans les romans de Paul de Kock. Alors je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu du Paul de Kock ici, pour l'instant ça ne m'est jamais arrivé de...
Il faut savoir que dans la bibliothèque, il était fait des achats suivant les désirs des sociétaires. Et lorsqu'un livre avait eu beaucoup de succès, enfin, il n'y avait pas assez d'exemplaires pour satisfaire tout le monde, et les gens pouvaient demander à ce qu'il soit racheté. Et il y a 4 exemplaires d'un chef-d'œuvre de Paul de Kock qui s'appelle Le Cocu.
Le Cocu. Oui, effectivement, il a eu beaucoup de succès. Donc je vais quand même faire un petit point sur Paul de Kock. C'est un auteur oublié aujourd'hui, mais qui a constitué en fait un véritable phénomène culturel au XIXe siècle. Il est issu d'un milieu social aisé. Il est né à Passy en 1793 et mort en 1871. Il hérite de la fortune de son père, qui est un avocat et banquier hollandais, qui a été guillotiné sous la Révolution. Paul de Kock travaille d'abord comme commis banquier dans sa jeunesse, avant de vivre pleinement de l'écriture. Il a écrit énormément, des romans, des nouvelles, des chansons, des pièces de théâtre. Et ses histoires sont fortement liées à son expérience des environs de Paris. Il vit une grande partie de sa vie donc, dans un appartement de Boulevard Saint-Martin, quartier de prédilection des boutiquiers qu'il met en scène. Paul de Kock aime se divertir les dimanches de belle saison dans le bois de Romainville et possède d'ailleurs 2 résidences secondaires dans ce bois dans les années 1830 et 1840. Et cet amoureux de la banlieue verte la pratique tout en écrivant sur elle et sur les plaisirs que les protagonistes y éprouvent. Sa figure d'auteur au XIXe siècle s'est d'ailleurs construite sur l'image d'un bourgeois heureux à Romainville, adepte à la fois de plaisirs grivois en partie de campagne et de repos en famille dans ses villégiatures. Sa production prolifique s'étend de la Restauration jusqu'à sa mort en 1871, et elle est si abondante qu'il est difficile de la quantifier avec précision. Il est réédité notamment jusqu'en 1949. Donc c'est un vrai phénomène de librairie, de cabinet de lecture, et surtout entre les années 1825 et 1848. Et son lectorat ressemble à ces personnages. Il fait partie de la moyenne et petite bourgeoisie commerçante ou rentière qui se familiarise avec la lecture. Paul de Kock est évidemment moqué et jugé indigne de commentaires par la critique de son temps. Il est souvent qualifié de romancier pour les cuisinières, les valets et les portières. Et on le comprend parce que ses romans comiques ou mélodramatiques sont dotés d'une morale conservatrice. L'ordre moral et social n'est jamais perturbé. Et ces livres sont faits pour être vite consommés et oubliés. Bien qu'il ne s'agisse pas de grande littérature, Paul de Kock est considéré par plusieurs auteurs, notamment Zola, Jules Vallès ou encore Jules Clarty, comme le père des parties de campagne et de la banlieue en littérature. Et voici ce qu'en dit Émile Zola donc dans un texte qui s'appelle « La banlieue », qui est d'ailleurs d'abord paru dans la presse et qui ensuite a été intégré au Capitaine Burnet. Le romantisme donna une âme à la nature. Plus tard, avec Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, on entra dans un panthéisme poétique où sanglotait la fraternité des êtres et des choses. Pourtant, Lamartine, si je ne me trompe, n'a pas écrit un vers sur la banlieue parisienne. Il faut dire que les environs de Paris, si intimes et si souriants, ne sont guère faits pour la poésie lyrique. Il est un conteur beaucoup plus modeste et presque déjà oublié, dont les livres ont singulièrement popularisé la banlieue. Je veux parler de Paul de Kock. C'est certainement lui qui a le plus travaillé à pousser le menu peuple hors des fortifications. Sans doute, de son temps, l'élan existait déjà, mais il fit une mode des parties de campagne qu'il racontait, il donna la vogue à certains coins de verdure et de soleil. Certes, la qualité littéraire de ses romans n'est pas grande, seulement que de bonhomie, et comme on sent qu'il peint des scènes vraies sous l'exagération comique. Ce n'est plus le poète lyrique à genoux devant les grands bois, c'est le bourgeois parisien qui traite la campagne en bonne femme et qui lui demande avant tout de la liberté et du plein air. La note exacte de la banlieue sous Louis-Philippe se trouve là. À l'époque où les poètes romantiques subliment la nature sauvage ou mettent en scène des individus singuliers dans leur élan de révolte ou leur contemplation métaphysique au contact de la nature, Paul de Kock, lui, trivialise l'idée de nature située aux environs de Paris. Il aurait façonné, si on en croit Zola, une certaine image de cet espace, celle d'une campagne de proximité dédiée à la gaieté et à la consommation des citadins, des bourgeois parisiens, préoccupés de leur seul plaisir. C'est assez vrai dans notamment trois romans principaux qui paraissent les années 1820 et 30, Monsieur Dupont en 1824, La laitière de Montfermeil en 1827 et La pucelle de Belleville en 1834. Les intrigues tournent autour de l'ordinaire, des joies et tracas de la vie de tous les jours. Dans Monsieur Dupont, c'est une histoire de mariage arrangé entre Eugénie Moutonnet, une fille de boutiquier, et Monsieur Dupont, le vieil épicier du quartier du Temple. La jeune fille veut à tout prix, pendant le roman, échapper à sa nuit de noces. Et le roman ouvre d'ailleurs par une partie de campagne où on voit qu'en fait elle est amoureuse du commis de la boutique d'à côté. Et donc voilà, elle veut surtout pas consommer quoi que ce soit avec le vieil épicier. La laitière de Montfermeil la porte sur les amours contrariés d'un jeune rentier sans titre, Auguste, tiraillé entre plusieurs amours. Et enfin, la pucelle de Belleville met en scène les rivalités entre deux jeunes filles d'anciens commerçants retirés à Belleville, Virginie Troupeau et Adrienne Vaudoré, qui comblent l'ennui en séduisant les garçons de passage. Il faut dire que tout cet univers romanesque fonctionne au type. Donc les personnages sont des types sociaux, ces êtres appréhendés à partir de leurs conditions sociales, au caractère invariable, et dont Paul de Kock se plaît à accentuer le ridicule, et le ridicule est même déjà dans les noms des personnages, Troupeau, Vaudoré, Moutonnet. Les récits explorent les manières dont les membres de cette classe moyenne parisienne apprivoisent la campagne périurbaine. Ils déploient l'imaginaire que les personnages citadins projettent sur les environs de Paris, la façon dont les petits bourgeois occupent la banlieue sur leur temps de loisir, la façon dont ils l'investissent, dont ils s'y comportent. Ce décryptage social se fait à partir d'une entreprise de typification de scène, au sein du récit de partie de campagne, qui relate un moment trivial de la vie dans ce qu'il a d'immédiat, de fugitif, dans une construction à la frontière entre le tableau et le théâtre. Paul de Kock forge et standardise un modèle narratif de la partie de campagne qui obéit au schéma suivant. Les projections heureuses, quand on sait qu'on va faire une partie de campagne, donc les personnages sont dans l'attente, tous les préparatifs de la journée, donc ils préparent leur tenue printanière, légère, parfois le menu du déjeuner sur l'herbe quand ils ne vont pas au restaurant. Ensuite, le moment même, donc il y a le départ, le trajet, quand ils sont sur place, les jeux, dans les champs ou dans les bois, le repas et ensuite l'étape du retour. Et je vais vous exposer donc les principales composantes du bonheur dans un premier point, puis ensuite je vais parler de l'écriture même de la partie de campagne. Donc, la banlieue est figurée comme un espace de gaieté, de libération, la destination privilégiée pour cette journée est le bois de Romainville dans les trois romans. L'excursion est désirée et attendue parce qu'elle incarne une promesse de dépaysement. Elle rompt avec la répétitivité du quotidien et avec un enfermement spatial et temporel. C'est le cas de la famille Moutonnet, dans Monsieur Dupont, qui ne vit que pour le travail, dans la boutique. Et ils vont passer un dimanche à Romainville pour la fête de la mère de famille, avec d'autres familles de boutiquiers du quartier. Dans la Pucelle de Belleville, les troupeaux et leurs voisins, les veaux dorés, se sont retirés du commerce, mais ils gardent des habitudes routinières dans leur maison à Belleville. Ils vivent selon des activités réglées. Donc pour eux aussi, l'excursion à Romainville est une fête. Enfin, pour Auguste, dans la laitière de Montfermeil, la banlieue est dépaysante par rapport à Paris parce qu'elle a un décor plus pittoresque, des divertissements plus pittoresques que ceux que l'on trouve dans la capitale. Le bonheur est procuré par la liberté physique et morale lors de scènes de jeux champêtres, de déjeuner sur l'herbe et de bals champêtres. Pour le rentier et la grisette qui l'accompagnent dans la laitière de Montfermeil, sortir de la ville invite à des jeux enfantins. La jeune femme court, jette des feuilles, cueille des fleurs dans les champs, sur la route de Romainville. Dans la Pucelle de Belleville, les anciens commerçants louent des chevaux et des ânes pour se promener dans le bois de Romainville. Adrienne Vaudoré, par exemple, éprouve une sensation grisante en galopant dans le bois aux côtés d'un jeune cuirassier de passage à Belleville et qui les accompagne pendant la partie de campagne. Dans Monsieur Dupont, une fois que la compagnie de boutiquiers a franchi la barrière du temple, chacun se jette dans les champs, saute, crie, court, et le narrateur parle même d'une véritable débandade. Le déjeuner sur l'herbe, d'ailleurs, dans Monsieur Dupont, est un moment de libération des conduites, de relâchement des postures, des manières de se servir et de manger. Vers le milieu du bois, des serviettes sont étalées sur le terrain et couvertes de pâtés, de viandes froides et de fruits. Les bouteilles sont placées au frais, les verres s'emplissent et se vident rapidement, les mets sont fêlés. L'appétit, le grand air font trouver tout excellent. On se forme des assiettes avec du papier, on se jette à la volée des morceaux de pâté, de saucisson. On mange, on boit, on chante, on rit, on se fait des niches. C'est à qui fera le plus de plaisanterie. Il est convenu qu'à la campagne, tout est permis. Et la société bourgeoise, qui est rassemblée au bois de Romainville, paraît bien pénétrée de cet usage. Les personnages rejettent les étiquettes, se laissent aller au grand air, et ce renversement joyeux des bonnes manières appartient au rituel festif, puisque le narrateur indique que cela fait partie des usages. Donc, le jugement social ne s'exerce plus. Un tel dérèglement est autorisé en partie de campagne et la bonhomie l'emporte dans ce plaisir grivois de la bonne chère et de l'ivresse. Toujours dans Monsieur Dupont, la scène suivante est celle du bal dans le bois de Romainville. Grisés par le vin après leur déjeuner sur l'herbe, les commerçants se précipitent au bal du bois, peuplé de villageois et villageoises de Romainville et des environs. La danse est animée. Le bal de Romainville est dans tout son éclat. Tout à coup, un bourdonnement sourd, un mélange confus de cris, de rires et de chants annonce l'arrivée de toute la société. Monsieur Bernard marche en avant avec Madame Gérard, faisant plus de train à lui seul que l'orchestre villageois. Bernard s'est élancé avant tous les autres, et en passant son premier entrechat, donne un croc en jambe à un beau-fils de l'endroit, auquel les pas et les gambades du tabletier ne paraissent pas plaire. Mais Bernard va toujours son train. Il veut électriser sa danseuse, tandis que de son côté, Madame Bernard se trémousse tant qu'elle peut avec Monsieur Gérard. Un peu plus loin, Dupont danse avec Eugénie, l'épicier voulant plaire à la jeune personne, s'élance, saute, se remue comme un possédé. Donc la danse est un moment de frénésie, partagé par les boutiquières et les boutiquiers. La joie vient de l'encanaillement et du défoulement possible hors du monde urbain, et s'exhibe dans sa vivacité et sa trivialité. D'une part, les personnages produisent de la cacophonie, par le mélange de cris, de rires, de chants qui témoignent d'un dérèglement, d'une envie de s'abandonner et d'abandonner les étiquettes sociales. Et ils se livrent en même temps à un débordement explosif, indifférent aux danseurs qui les entourent, Les femmes et les hommes n'obéissent pas aux chorégraphies codifiées des danses rustiques. Les corps se contorsionnent dans des mouvements presque obscènes, mais qui expriment la satisfaction euphorique à l'œuvre dans la libération corporelle et morale permise par la sortie dans le bois. L'encanaillement des personnages masculins s'expérimente d'ailleurs dans la proximité avec les paysannes pendant ce bal. Il est intéressant en effet ici de s'arrêter sur la figuration des rapports sociaux entre parisiens et villageois. Les boutiquiers se divertissent en ignorant les villageois masculins, réduits au statut de figurant, et lorsque les villageois réagissent au débordement des parisiens, ils sont considérés avec mépris, qualifiés de rustres, de malotrus. Au contraire, les jeunes paysannes, elles, font partie de l'agrément du bal. Je cite « Les jeunes paysannes avaient mis le joli déshabillé, le bonnet à dentelle. Quelques-unes avaient même le tablier de soie. » Ensuite, un peu plus loin, « Monsieur Boudonnet suit de loin la compagnie, chantonnant un petit refrain guilleret et roulant des yeux effarés en regardant les petites paysannes qui passent près de lui. » Des jeunes filles occupent aussi un statut de figurante, mais procurent une certaine délectation chez le commerçant. Elles sont dépourvues d'individualité, hein, de nom, de voix, de parole. Elles sont saisies depuis son point de vue de citadin qui connaît mal ce milieu rural et dont le regard concupiscent ne s'attache qu'à des détails, qu'à leur apparence physique pittoresque, dépaysante et surtout séduisante. Le boutiquier est porté par un fantasme de transgression à la fois sociale et d'âge, avec ses filles qui ne sont pour lui que des autochtones charmantes. Et je voulais pas être trop longue, mais dans la litière de Montfermeil aussi, c'est assez saisissant. Le jeune rentier est en promenade près de, et il aperçoit la litière de Montfermeil à l'entrée du bois, et il la suit dans le bois, et lui tente de lui dérober un baiser, l'attrape, et alors qu'elle lui dit non. Et donc là, la laitière est même considérée comme une proie sexuelle par le Parisien dans ce bois des environs de Paris. Et ça m'amène à ma transition, donc, qui est le fait que la campagne offre une autre liberté qui est celle des transgressions, justement. Les boutiquiers, anciens commerçants et leurs enfants vivent dans une société où les plaisirs sont en principe contenus par les normes de la décence conjugale. Paul de Kock décrit des sorties en banlieue, assimilées comme un échappatoire au contrôle de la sexualité et de la sensualité qui s'exerce dans les espaces de vie habituels. Les pulsions et désirs refoulés dans la ville se libèrent dans le bois de Romainville, mais la description reste toujours euphémisée pour éviter la censure pour pornographie. Le premier cas, c'est celui qui concerne un double interdit. Donc le quotidien voué au commerce et à l'enfermement dans la boutique est susceptible d'attiser à la fois un désir d'adultère, qui est à l'époque puni par le code civil, et un désir de pédophilie. Donc là, c'est le code pénal, par exemple, de 1810, prévoit des pénalités hein, pour le crime de viol, par exemple, sur mineurs de moins de 15 ans. Et donc, dans Monsieur Dupont, parmi les invités de la partie de campagne, par exemple, le vieux parfumeur Monsieur Gérard ne peut retenir son attirance pour Mademoiselle Mimi, qui est la fille de commerçant du quartier, âgée de 15 ans, mais qui en paraît 8. Je cite, « Le parfumeur aime beaucoup les petites filles, et quoique Mademoiselle Mimi joue encore à la poupée, elle n'est plus une enfant aux yeux de tout le monde. Sa taille est élancée, son fichu dessine déjà deux petits contours bien arrondis, et sa bouche, qui rit toujours, est aussi fraîche que ses joues. » Le parfumeur a remarqué tout cela. Et donc la sortie dominicale est vécue comme le seul moment possible pour le vieux parfumeur de s'approcher de cette fille à la fois infantilisée et sexualisée. Pendant le jeu de cache-cache dans le bois, l'homme est découvert derrière un buisson, dans une posture équivoque qui induit une tentative ou un acte de défloration. Et la citation voici « Dupont ne tarde pas à trouver Monsieur le parfumeur assis tout contre Mademoiselle Mimi qui est couchée sur le gazon. » Et les femmes profitent aussi du cache-cache pour se livrer à des jeux licencieux. Madame Bernard, donc une des boutiquières, fait courir son commis, un très jeune garçon, et le narrateur souligne avec ironie leur physionomie lorsqu'ils sortent des buissons du bois. Je cite « Madame Bernard reparaît enfin avec son commis, la tabletière est encore plus rouge qu'à l'ordinaire, et le petit Estève a les yeux qui lui sortent de la tête. » Ce sont autant d'expressions allusives qui suggèrent, afin de contourner la censure, que le parfumeur profite du corps de Mademoiselle Mimi et que la tabletière a voulu satisfaire son désir avec son employé. La licence représentée par Paul de Kock contrevient doublement aux normes sociales et morales, puisque, comme je l'ai dit, bravade donc interdit d'adultère et se lier à un écart social, employé domestique et un écart d'âge. Et ses protagonistes se réjouissent de déniaiser les plus jeunes qui ne peuvent pas se défendre. Et le ton comique de l'auteur est tout de même une façon de dédramatiser ces formes de sexualité et de domination qui apparaissent aussi gaies que les restes des scènes, comme des petits plaisirs fugaces avant de retourner à la routine du quotidien. Pendant le cache-cache, la jeunesse petite bourgeoise cherche, elle, une autre forme de liberté, tout aussi grisante, qui est celle de braver l'interdit parental du flirt avant le mariage. C'est le cas dans Monsieur Dupont et La Pucelle de Belleville. Les filles de commerçants aspirent aux émois des premières caresses et des premiers baisers dans les endroits touffus, ça c'est parce que l'expression est utilisée, touffus et solitaires du bois de Romainville. Au bois, elles peuvent sortir temporairement de l'espace domestique dans lequel elles sont élevées comme des oies blanches, expression utilisée par l'historienne du flirt Fabienne Castarrosas, pour désigner le modèle d'éducation des jeunes filles bourgeoises au XIXe siècle. Afin de rester pure pour le marché matrimonial, Virginie Troupeau, Adrienne Vaudoré et Eugénie Moutonnet sont élevées dans l'innocence, dans l'ignorance des réalités de la vie charnelle, dans la surveillance parentale à tous les niveaux, l'enfermement, le respect de la pudeur, etc. Comme la virginité est une raison d'être sociale, les jeux de séduction sont perçus comme une souillure, une dépravation. Et lors du jeu de cache-cache, les demoiselles peuvent se dérober aux regards parentaux. Dans Monsieur Dupont, les feuillages du bois abritent le premier flirt d'Eugénie Moutonnet avec le commis du quartier, dont elle est amoureuse, au milieu des feuillages dont elle reçoit les premiers baisers du garçon et caresses. Dans La Pucelle de Belleville, Virginie parvient aussi à se retrouver seule dans les buissons avec le cuirassier pour se livrer à l'expérience tant attendue. Donc je cite le passage, « Ventre à terre, c'est le nom du cuirassier, s'enfonce dans le fourré et ne s'arrête que dans un endroit touffu. Là, il pose Virginie sur le gazon et le beau cuirassier y va sérieusement. Il lui a déjà pris plusieurs baisers. Il est sur le point de prendre autre chose lorsqu'il entend beaucoup de bruit dans le feuillage. Dissimulé par le fourré, le soldat est pris d'émotions inédites qui le poussent à oser certains gestes, allant de baiser jusqu'à la tentative de défloration euphémisée par cette remarque allusive du narrateur et interrompue par une péripétie vaudevillesque qui est l'irruption d'Adrienne, la rivale de Virginie, qui est, c'est elle qui fait du bruit dans le feuillage. Et ce qu'il est intéressant de souligner, c'est qu'à une époque où les écrivains romantiques construisent une mystique de l'amour, Paul de Kock, lui, ne met pas en scène d'amour sublime dans ce bois de banlieue. Au contraire, il se situe à une échelle plus prosaïque et triviale, celui de flirt de jeunes enfants de commerçants qui n'ont d'autres soucis que leur bonheur matériel. Alors j'en viens maintenant à la question de l'écriture de la partie de campagne. La façon dont Paul de Kock écrit l'excursion dans le bois de Romainville, pour la comprendre, il faut prendre en compte d'autres écrits qui circulent au même moment. Paul de Kock forge selon moi une manière d'écrire qui se comprend par rapport au nouveau regard dont la banlieue fait l'objet au début du XIXe siècle. En effet, cet espace commence à être perçu comme un espace de consommation et de promenade voué aux bourgeois parisiens, ce qui est porté par une littérature spécifique, celle du guide pratique dans les environs de Paris. Alors le genre du guide existe avant le début du XIXe siècle. Sous l'Ancien Régime, des guides, appelés antiquités, recensent essentiellement les sites les plus remarquables hors de Paris, les édifices architecturaux comme châteaux, abbayes, villas, etc. Et ces guides sont destinés à une élite sociale et culturelle. Et dans la première moitié du XIXe, une importante production de guides émerge, fondée cette fois sur des préoccupations plus pratiques de repérage périurbain. Et ces ouvrages s'adressent à des individus qui ne demandent qu'à s'amuser, à un étranger, un provincial ou un parisien qui connaîtrait mal les marges de la capitale. Et cette veine du guide accorde davantage de place justement aux réjouissances variées des environs de Paris, aux agréments des sites naturels, aux divers divertissements que l'on peut trouver les jours de repos, les bals, les fêtes, les restaurants. L'essor des guides aux environs de Paris constitue l'indice, à mon avis, d'une amorce de démocratisation de la promenade dans la campagne proche de la ville, au temps de Paul de Kock. Il révèle que la banlieue est en train de devenir une sorte de destination touristique avant la lettre. Et en effet, une porosité de frontière apparaît entre roman et guide. Le guide des environs de Paris a pour fonction de livrer des informations à son lecteur, de conseiller, de prescrire des comportements, et ses fonctions se retrouvent dans le récit des parties de campagne coquiennes. le narrateur de Paul de Kock détaille les trajets de Paris au bas de Romainville, donne des informations et des conseils sur des foires, sur des restaurants, en fonction d'ailleurs de son appartenance sociale. Et il se fait aussi guide licencieux. Dans les années 1820, des guides des environs de Paris signalent en effet que le bois de Romainville est célèbre en tant que repère de parties fines et de transgressions. Je cite le nouveau conducteur de Constant Taillard de 1826. Il, donc le bois de Romainville, n'est pas d'une grande étendue, mais il est beau, touffu et tout à fait propre aux amours. Il est de tous les bois de l'Europe, celui où il se commet le plus de péchés mortels. Paul de Kock approfondit cette dimension informative du guide et reprend d'ailleurs cette adresse prescriptive. En effet, il trace l'itinéraire qui permet d'accéder aux endroits où on commet les péchés dans le bois de Romainville. Le narrateur parle comme un connaisseur des moindres détails du bois et joue à confier des itinéraires érotiques. Et cette dimension de guide est frappante dans Monsieur Dupont. En fait, avant que la jeune fille de boutiquier ne s'enfonce dans les fourrés avec le commis, elle est forcée par ses parents de se promener au bras du vieil épicier à qui elle est promise. Et là, le narrateur interrompt le récit et intervient. Pauvres amants. Donc en fait, les amants sont en train de se regarder, voilà, ils espèrent se retrouver un moment un peu seuls. Pauvres amants, vous brûlez de vous faire de doux aveux. Patience, vous voilà au bois de Romainville et j'ai dans l'idée que c'est là que vous achèverez de vous entendre. Au milieu du bruit des petits jeux, du désordre de la fête, il est impossible que vous ne trouviez pas l'occasion de vous rapprocher. Le site vous sera favorable. Oui, c'est un bien joli endroit que le bois de Romainville. C'est dommage pourtant qu'il ne soit pas plus épais, mais il faut se contenter de ce qu'on a. D'ailleurs, je suis bien persuadée que les petites fillettes, les grisettes, les villageoises et les belles dames de Paris n'y vont jamais dans l'intention de chercher les bosquets touffus et les sentiers écartés. Donc le narrateur s'approprie le système d'adresse du guide, apostrophiant les personnages, puis suspendant la fiction pour tenir un discours généralisant sur les pratiques licencieuses qui se tiendraient dans le bois. Par cette montée en généralité, il se situe entre le divertissement et le manuel. Et les conseils peuvent autant s'adresser au lecteur, susceptible de s'approprier le propos et imiter ce qui se joue dans la fiction, qu'aux personnages eux-mêmes. Tout se passe comme si les parties de campagne coquiennes montrer le bois de Romainville comme un espace encore peu défriché à apprivoiser pour expérimenter ses petites libertés. Et donc pour conclure sur Paul de Kock, comme je disais, il façonne l'image d'une banlieue champêtre en tant que paradis dédié à la consommation des petits bourgeois, à travers des scènes comiques, dont le rire grivois ne perturbe en rien l'ordre social ou moral, où des comportements de mépris ou de violence sexuelle sont euphémisés. Il forge un stéréotype du bonheur en banlieue, c'est-à-dire un modèle qui s'est solidifié, standardisé et diffusé, qui a été repris pendant le XIXe siècle avec des variations. Et je m'intéresse à ces reprises du stéréotype durant la seconde moitié du XIXe siècle. J'en viens à ma deuxième partie, la reprise du modèle par Zola et Maupassant. En effet, donc, ce modèle connaît forcément des variations, puisque dans la seconde moitié du XIXe siècle, les environs de Paris se transforment avec l'industrialisation, l'urbanisation, le développement du chemin de fer et des infrastructures de loisirs. Les destinations des personnages sont plus lointaines et éclatées chez Zola et Maupassant, par exemple, que chez Paul de Kock, et correspondent au style de loisirs en vogue dans les années 1860-1880, Saint-Ouen, Joinville, Beson, Chatou. Et certes, ces auteurs ne s'inscrivent pas dans le genre du portrait de mœurs comique, mais dans le mouvement naturaliste, où la réalité sociale est explorée dans ses aspects les plus complexes. Mais comme chez Paul de Kock, ces auteurs ont un rapport intime à la banlieue verte. Ils ont fait l'expérience de promenade dans les bois de banlieue, du canotage, et ils ont mis en scène les personnages pratiquant les mêmes loisirs. L'étude de l'intertextualité entre Paul de Kock et ses écrivains est féconde pour s'interroger sur la façon dont la quête de bonheur est à présent mise en scène et écrite. Alors pour ça, je prends quelques œuvres de Zola et Maupassant, donc Thérèse Raquin, Au bonheur des dames, pour Zola, et pour Maupassant, Les dimanches d'un bourgeois de Paris, Une partie de campagne et La femme de Paul. Zola et Maupassant mettent en scène, comme chez Paul de Kock dans ses œuvres, une classe moyenne parisienne. Les personnages sont boutiquiers ou vendeurs de grands magasins, employés dans l'administration. Sauf Paul, il a un statut un peu particulier dans La femme de Paul, c'est un fils de sénateur, mais il est amant d'une faubourienne, donc il est un peu entre deux mondes sociaux. Ils ont en commun aussi cette indifférence à la politique. Leur rythme de vie est toujours réglé entre travail et loisirs, et la banlieue constitue toujours un ailleurs rêvé, désiré, qui permet de rompre avec l'enfermement temporel et domestique, avec un quotidien monotone et répétitif. Cependant, une nouvelle motivation à l'excursion hors de la ville apparaît chez ces auteurs. C'est surtout par besoin de respiration, de régénération physique et morale que les personnages veulent fuir Paris pour ses environs de verdure les jours de beau temps. L'apparition de la régénération comme motif de l'échapper en banlieue correspond au développement des théories hygiénistes hein, qui recommandent l'assainissement des espaces privés et préconisent des comportements dits hygiéniques comme les exercices en plein air ou l'évitement des lieux de foule. La respiration au grand air à cette époque devient une finalité thérapeutique, ce qui incite à privilégier des excursions à l'extérieur de la ville. Et les citadins chez Zola et Maupassant ont comme intériorisé ces théories et veulent retrouver leur santé altérée à force de vivre dans la capitale asphyxiante, dans des conditions de vie insalubres. Dans les Dimanches de bourgeois de Paris, par exemple, Patissot est un employé dans l'administration âgé de 50 ans et il se met tout à coup à vouloir arpenter la banlieue parce que sa santé est menacée. Il respire un air vicié chez lui, je cite « sa fenêtre donnait sur une cour étroite et sombre, une sorte de cheminée où montaient sans cesse toutes les puanteurs des ménages pauvres ». Il est tout le temps immobile au travail et subit des étourdissements, et c'est son médecin qui lui recommande des sorties au grand air. De même, chez Zola, Thérèse Raquin, elle, passe ses journées dans sa boutique, qui est petite, humide, sombre, obscure, délabrée, et dans laquelle elle peine à respirer. Je cite le moment où Thérèse découvre les lieux, puisqu'elle vient donc de Normandie. Quand Thérèse entra dans la boutique où elle allait vivre désormais, il lui sembla qu'elle descendait dans la terre grasse d'une fosse, une sorte d'écœurement la prit à la gorge. Elle habite en effet dans le passage du Pont-Neuf, qui est un quartier froid et sombre, avec des dalles gluantes, en marge des rénovations haussmanniennes et du Nouveau Paris. Enfin, c'est parce qu'elle étouffe dans le grand magasin sous le poids d'un rythme effréné que Denise veut imiter les autres vendeuses du Bonheur des Dames et s'évader à Joinville avec sa camarade Pauline, qui, elle aussi, est prise de besoin de respiration. Je cite « elle qui adore la banlieue d'une passion de cabotine, vivant au gaz, dans l'air épais des foules ». La régénération est d'ailleurs liée à un désir de retour à la campagne natale pour Thérèse Raquin et Denise. Donc la nature en banlieue est censée procurer l'illusion d'une plongée purifiante dans la nature sauvage de leur Normandie natale, donner l'impression d'un retour au temps de l'innocence et de l'enfance. Donc les personnages peuvent expérimenter des moments de plaisir lors de leur partie de campagne. Cependant, ces écrivains vont plutôt s'attacher à montrer les obstacles qui entravent le bonheur des personnages. Le premier obstacle, ce sont les nuisances liées au développement de la massification et de la commercialisation des loisirs en banlieue. Chez Paul de Kock, en effet, les personnages vont dans les champs du côté de Belleville pour atteindre ensuite le bois de Romainville. Ces sites naturels sont encore épargnés par les distractions commerciales. Il y a bien un restaurant champêtre à l'entrée du bois de Romainville, un loueur d'ânes et de chevaux, mais voilà, c'est tout. Et en effet, Paul de Kock écrit dans cette période, comme je l'ai dit, un peu de découverte de la banlieue par les citadins. Ces personnages ne croisent pas de foule de Parisiens non plus dans les champs ou dans le bois. Mais dans les années 1860-1880, les lieux de loisirs où les personnages de Zola et Maupassant se promènent ont été popularisés par des guides des environs de Paris, mais aussi par des publicités, par exemple pour les bals publics dans des cafés ou des guinguettes. Et donc les chemins de la banlieue ont été balisés, la nature a été en quelque sorte domestiquée. Des bals, des cafés, des kermesses, des guinguettes, des ports de canotage aussi se sont progressivement établis dans les espaces verts et sur les bords des fleuves, du côté de Nogent, de Joinville, mais aussi de Chatou. Ainsi, Maupassant et Zola vont plutôt décrire la foule qui investit les cafés, les guinguettes, les bals, mais aussi les chemins et l'eau, avec la vogue des courses de canots. Dans Thérèse Raquin, à Saint-Ouen, les sentiers sont envahis par des promeneurs endimanchés, si bien que, je cite, « chaque chemin semblait une rue populeuse et bruyante », comme si la ville s'était déversée dans la banlieue. Dans La femme de Paul, C'est pareil, le récit s'ouvre par une description de toute la foule dans les différents cafés en plus qui sont sur ces îles, du côté de Chatou, de Beson. Donc il y a le grillon dans lequel, je cite, c'est un tumulte de cris, d'appels qui règne. Et en face à la grenouillère, le, je cite encore, le grand café flottant regorgeait de monde et à ses abords, une foule de promeneurs circulait sous les arbres géants. Dans La femme de Paul et Le bonheur des dames, des groupes de canotiers ne cessent d'ailleurs de se croiser sur l'eau en faisant résonner des cris, des rires et des chants. Cette foule d'ailleurs, il est intéressant de voir qu'elle est surtout visiblement composée de citadins. Les paysans et les paysannes ont comme disparu des récits de Zola et de Maupassant. Et je pense que cette absence de paysans s'explique par rapport à l'évolution des rapports entre Paris et la banlieue au cours du XIXe siècle. C'est-à-dire que ces auteurs écrivent dans une période marquée par la dissociation entre la ville et son arrière-pays nourricier. Avec l'avènement du monde industriel, les circuits d'échange, comme des échanges alimentaires, entre Paris et ses environs, se sont modifiés et tendent à diminuer. C'est ce que les historiens de l'environnement appellent la rupture métabolique, qui signifie que la périphérie proche de Paris est structurellement moins reliée à la capitale, peut-être et malgré à cause du développement du chemin de fer. Les localités dans lesquelles les personnages font leur partie de campagne sont touchées par des mutations qui perturbent un équilibre rural et qui sont provoquées par deux phénomènes, le développement du chemin de fer et l'industrialisation déjà. L'industrialisation, en effet, s'est développée entre Courbevoie et Beson, ainsi que dans la banlieue nord où se situe Saint-Ouen. Par exemple, Saint-Ouen, dans les années 1830-40, est plutôt un village avec beaucoup de cultures de céréales, de maraîchers, etc. Et avec le développement du port et des docks en 1830, qui ont ensuite été reliés dans les années 1860 au chemin de fer, ça a favorisé l'implantation de l'industrie, mais aussi du commerce de loisirs. De plus, des localités comme Joinville, Croissy, Chatou connaissent aussi une intensification des loisirs entre 1850 et 1880. Le développement du chemin de fer là aussi, la création de ports de canotage et la multiplication des distractions commerciales sont les indices d'un retrait progressif de la spécialisation agricole et donc de la population paysanne. Donc l'effacement des scènes de rencontre entre monde urbain et monde rural dans les romans et nouvelles de cette seconde moitié du XIXe siècle peut s'expliquer en quelque sorte par cette forme de colonisation de proximité qui a empiété sur les campagnes proches de la capitale sans interagir avec elles. Par conséquent, l'écriture guide qui caractérisait les récits de Paul de Kock disparaît aussi. C'est-à-dire que Maupassant et Zola n'écrivent plus à la manière d'un guide, avec un narrateur qui interrompt le récit pour livrer des informations, pour donner des conseils à un lecteur novice en excursion dominicale. La raison peut être liée au raffinement du lectorat, depuis Paul de Kock, aussi à l'évolution du réalisme, puisque il n'est plus question de faire du détail, de l'accumulation de détails référentiels, mais c'est aussi peut-être lié à cette démocratisation des loisirs en banlieue qui fait qu'il n'est plus la peine d'expliquer aux lecteurs comment se guider dans les excursions dominicales. Et ça m'amène à un autre obstacle au bonheur des personnages, c'est le fait que les établissements de bouche et de loisirs nautiques ont colonisé donc les berges, bouleversé le paysage afin de répondre aux besoins des citadins le dimanche, et cette présence entraîne des nuisances particulières. Donc l'émission d'odeurs nauséabondes qui sont autant de formes de pollution de la banlieue verte. La possibilité d'une plongée dans la nature vierge est ainsi mise en difficulté pour Thérèse Raquin et Denise du Bonheur des Dames, elles qui espéraient retrouver dans les environs de Paris la nature sauvage de leur Normandie natale, découvrent en fait une toute autre nature. Thérèse Raquin est étourdie par la cacophonie ambiante dans Saint-Ouen. Je cite, « Au bruit criard de la foule se mêlaient les chansons lamentables des orgues de barbarie. » Donc en gros, dans la partie de campagne dans Thérèse Raquin, donc, les personnages vont à Saint-Ouen, se reposent un peu dans l'herbe, ensuite veulent aller dîner dans une guinguette. Et donc là, dans cette guinguette, voilà la façon dont elle est décrite. L'état de la guinguette dans laquelle elle va s'installer avec son mari et son amant pour déjeuner est repoussant. Elle est qualifiée de gargote, puant la graisse et le vin. Et Denise essaye d'aller respirer sur la terrasse, mais de la terrasse, elle observe un horizon bouché, je cite. En haut, sur la terrasse, les souffles de la rivière chassaient les odeurs de graillon. Thérèse, appuyée contre la balustrade, regardait sur le quai. À droite et à gauche s'étendaient deux files de guinguettes et de baraques de foire. Dans Au bonheur des dames, Denise est quant à elle traversée par diverses émotions. Alors l'après-midi, elle se réjouit de battre les champs, elle cueille des fleurs, elle regarde couler l'eau dans un état heureux. Mais le soir, elle va au restaurant et ce restaurant est rempli de canotiers, de promeneurs tapageurs et ça la fait glisser d'un état d'insouciance à une forme d'étouffement. Je cite le passage. Dès 6 heures, les tables manquèrent. Les promeneurs se hâtaient, cherchaient un coin. Et les garçons apportaient toujours des chaises, des bancs, rapprochaient les assiettes, entassaient le monde. On étouffait maintenant. Le bruit était assourdissant, des rires, des appels, des chocs de vaisselle. L'établissement est comme pris d'assaut par la foule des citadins à la tombée de la nuit. La promiscuité entraîne une chaleur pesante, décuplée par la cuisson des plats. Les personnages respirent ainsi un air, je cite, « chauffé par l'odeur des viandes ». Et donc Denise suffoque et se sent mal et retrouve ses esprits une fois qu'ils ont pu sortir de cet endroit. Zola et Maupassant vont déconstruire l'image de cette banlieue verte propice à la gaieté, au rire grivois qui n'a rien d'inquiétant socialement qui était propre à Paul de Kock. Ils introduisent de la noirceur dans la partie de campagne. Ces auteurs explorent la médiocrité, mais aussi la complexité psychologique des personnages. Ainsi, la banlieue n'est plus le lieu de transgression dédramatisée, légère, gentiment leste, mais de transgression violente, trouble. La sexualité et les pulsions dissimulées dans le centre de Paris se révèlent plus crues et brutales dans la nature de banlieue. Les bosquets du côté de Chatou et Beson sont le lieu de viol, dont la femme de Paul de Maupassant, qui est euphémisée, hein, mais qui est assez nette. Le personnage donc, de Paul se promène à un moment avec sa maîtresse dans la nature, et cette faubourienne chante un air des rues d'une voix qualifiée de aigrelette. Et là, un mépris social pour cette femme surgit de façon bestiale et féroce, et donc Paul va l'agripper et l'entraîner et la violer dans les buissons. Dans une partie de campagne aussi, dans une île sauvage, et une fille de boutiquier va être déflorée par un canotier, et là aussi, ça va être dans un mélange de désir, de crainte, de résistance. À la fin de la nouvelle, elle dit que c'était cette rencontre avec cet homme, cet inconnu canotier, était le seul moment de bonheur de sa vie, mais la scène elle-même de défloration porte tout de même une certaine ambiguïté dans ce mélange d'émotions. Enfin, des scènes de suicide et de meurtre sur l'eau servent de dénouement aux parties de campagne de la femme de Paul et de Thérèse Raquin. La nuit, les chants et les rires des canotiers s'étiolent, la verdure s'efface et la banlieue verte devient noire, laissant place à l'expression des instincts les plus bestiaux. Le personnage de la femme de Paul se suicide, après avoir découvert le lesbianisme de sa maîtresse. Pendant une scène de bal dans un des cafés, il perd de vue sa maîtresse, qui va en fait s'échapper avec un groupe de lesbiennes qui avait fait du canot, et il les entend dans les buissons. Et donc, voilà, il va se suicider après cela. Et lors d'une promenade en canot, enfin à la tombée de la nuit, là ce sont Thérèse et son amant, à l'abri des regards, qui vont noyer Camille Raquin. Donc en conclusion de cette petite partie, entre Paul de Kock et les récits de la seconde moitié du XIXe siècle, le bonheur dans la campagne se fragilise. Zola et Maupassant reprennent un modèle narratif pour le remodeler, du fait des mutations des environs de Paris et de leur démarche littéraire. Ils font craquer en même temps l'image lisse, rassurante, sans ombre, du stéréotype de la banlieue verte forgée par le romancier populaire, qui peut-être à leur époque, avec le recul du temps, paraître désuète, datée, naïve et inintéressante esthétiquement. La mémoire de la partie de campagne à la Paul de Kock ne s'éteint toutefois pas après cette fissure dans le stéréotype, puisqu'elle survit jusque dans l'entre-deux-guerres, et c'est ce qui va faire l'objet de mon dernier point. Donc, l'histoire que j'ai voulu construire est littéraire, au sens où elle s'attache à l'intertextualité entre Paul de Kock et d'autres écrivains, mais je construis aussi une histoire culturelle qui met en lumière les mémoires de la banlieue verte de type 1830, du temps de Paul de Kock, qui se déploie de la seconde moitié du XIXe siècle jusque dans les années 30, et qui repose sur un certain souvenir de partie de campagne. Je vais exposer trois formes que peut prendre cette mémoire. La première, donc, c'est la reprise de scènes de bonheur au cinéma. Dans ma lecture diachronique des récits de bonheur en banlieue, j'ai réalisé en fait que dans la première moitié du XXe siècle, la partie de campagne de la classe moyenne parisienne sans histoire n'était plus très présente en littérature. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, déjà les transformations, dégradations, pollution du paysage et de la nature causées par l'industrialisation dans les environs de Paris se mettent davantage à entrer en littérature, chez Zola lui-même, mais aussi par exemple chez Huysmans ou chez les frères Goncourt. Puis un imaginaire des bas-fonds se met en place à la Belle Époque. Là, les marges de la ville représentées dans les feuilletons populaires sont celles de la zone, des fortifications, les repères de la délinquance et de la criminalité. Enfin, durant l'entre-deux-guerres, les écrivains campent leurs intrigues dans des banlieues plus intéressantes esthétiquement que celles de la banlieue verte des loisirs, donc c'est la banlieue noire du travail, qui met en scène donc les ouvriers à l'usine dans la littérature prolétarienne. Celle qui est mise en scène aussi comme banlieue, c'est la banlieue touchée par la crise des lotissements défectueux et des mal lotis, soit chez Céline, Queneau, Jules Romain, Emmanuel Beuve, Marmouset. Et enfin, on a la banlieue rouge révolutionnaire, un mythe alimenté par les victoires du Parti communiste en banlieue, dans beaucoup d'écrits d'auteurs communistes. La banlieue verte comme espace de gaieté, de consommation pour une population parisienne sans histoire, indifférente à la politique, préoccupée de son confort, survit plutôt donc, dans le cinéma populaire. J'ai sélectionné quelques films, donc Prix de beauté d'Augusto Genina. Je pense que personne ne connaît ce film, il n'a pas survécu, mais en fait à l'époque il était très connu. Je crois que c'était un des premiers films parlants. Il y avait aussi des acteurs assez populaires, donc il a été beaucoup annoncé dans la presse. Il y a des photos de tournage qui étaient diffusées. Boudu sauvé des eaux de Jean Renoir, donc La belle équipe de Duvivier, hein, qui lui est plus connu. Partie de campagne de Renoir et Fric Frac de Maurice Lehmann. Dans ces films, des scènes de parties de campagne héritées de la littérature du XIXe siècle sont reproduites et assurent, j'ai l'impression, la même fonction que celle de Paul de Kock, c'est-à-dire montrer un monde social rassurant dans lequel les personnages ne s'aventurent jamais dans les marges inquiétantes de la ville, dans lesquelles les méchants ou les marginaux sont toujours sympathiques, dans lequel l'ordre social et moral est préservé lors des dénouements des films, ce qui assure de plaire à un large public. On y trouve des scènes de délassement dans l'herbe, de promenade en barque ou à bicyclette, des scènes de flirt dans la nature. Ce cinéma perpétue l'image d'une banlieue verte comme terre de libération physique et morale, de plaisir simple. Et le cinéma parlant étant un art neuf, jeune, sa modernité lui permet de renouveler des scènes littéraires anciennes sans que cela ne paraisse désuet. La photogénie des scènes de parties de campagne est idéale pour réinventer des codes esthétiques, jouer sur les postures des acteurs, travailler la lumière afin d'offrir des sortes de charmants tableaux mouvants aux spectateurs. Elle offre aux cinéastes un terrain d'expérimentation et de prouesse technique intéressant, le fait de tourner en extérieur, parfois avec beaucoup de figurants. Par exemple, Prix de beauté d'Augusto Genina, en fait, ça s'ouvre par une grande scène avec beaucoup de figurants. C'est une grande scène de baignade dans l'eau en banlieue, sur une petite plage artificielle. Et il y a aussi tout un dispositif à chaque fois de caméras embarquées hein, pour les scènes sur l'eau, les scènes de promenade en barque et les scènes de promenade à bicyclette. Et deux films en particulier m'intéressent parce qu'ils vraiment reconstituent assez ouvertement l'univers de la partie de campagne et de la banlieue du début du XIXe siècle. D'abord, il y a Partie de campagne de Renoir, qui est tourné en 36 mais qui sort en 46. Renoir adapte la nouvelle de Maupassant et chaque scène, scène de jeu sur la balançoire, promenade en canot, promenade dans la nature sauvage, flirt, défloration, ressemble d'ailleurs aussi à des reconstitutions de tableaux de son père, donc on peut avoir l'impression qu'il reconstitue l'imaginaire finalement des parties de campagne de la seconde moitié du XIXe siècle, mais Renoir fait quelque chose d'intéressant, c'est que le début de la nouvelle de Maupassant est coupé. En fait, la nouvelle de Maupassant commence par le trajet des boutiquiers en fiacre de Paris à Beson. Et justement, ce qui est intéressant et ce qui permet aussi de dater l'action, c'est qu'il traverse des paysages dégradés par l'industrialisation. Et en créant cette éclipse, en effaçant cette ouverture, Jean Renoir finalement nous plonge dans une autre époque, comme s'il essayait de faire renaître un âge d'or de la banlieue dans une banlieue encore verte, rurale, qui est épargnée par les mutations industrielles. Et d'ailleurs, dans ses entretiens et témoignages, il exprime cette désolation face à la destruction des sites champêtres, que son père avait d'ailleurs tant peint et fréquenté, et qui ont été engloutis par l'industrialisation et l'urbanisation. Je cite un extrait des entretiens et propos de Renoir. « La Seine de 1935 n'était plus la Seine des canotiers de mon père. La Seine de 1935 était une Seine avec des usines, des bateaux à vapeur et beaucoup de bruit. » Et Renoir déplore que « Maintenant, il est impossible de trouver des endroits sans construction, sans usines aux environs de Paris. » Donc, pour moi, il y a vraiment une sorte de couche temporelle assez intéressante à questionner dans ce film de Renoir, entre l'impression d'être dans cette époque, seconde moitié 19e, par le fait d'adapter les nouvelles de Beaupassant, mais en même temps de se référer à un âge antérieur de la banlieue comme un état originellement verdoyant. La belle équipe de Julien Duvivier est aussi intéressant parce que lui aussi semble reconstituer ce temps heureux de la banlieue verte épanouie par l'industrialisation, mais il le situe plus explicitement dans l'époque de Paul de Kock. Le film met en scène des amis, donc des ouvriers au chômage, qui ne veulent pas sortir de leurs conditions par la lutte. Au contraire, ils cherchent la stabilité financière et la sécurité du statut de propriétaire. Et leur aspiration à ces valeurs bourgeoises se concrétise quand ils gagnent à la loterie et qu'ils achètent une maison abandonnée au bord de l'eau sur une île près de Nogent-sur-Marne. Ils souhaitent y mener, je cite, « la vie de château, vivre comme des rentiers » et transforment cette maison en guinguette. Le projet de la bande consiste à fuir les misères de la capitale pour se retrouver dans un cadre de partie de campagne heureuse qu'ils auront eux-mêmes fabriqué. Et le personnage de Jean, lorsqu'il dit qu'il veut vivre la vie de château, vivre comme des rentiers, en fait, se réfère à une figure fictionnelle du passé à laquelle tout un imaginaire justement du bonheur en banlieue verte est arrimé. La guinguette, pour lui, est destinée à devenir le paradis des Mimi Pinson. Or, Mimi Pinson, donc c'est le nom de la couturière qui est chantée par Alfred de Musset et Pierre-Jean Béranger dans les années 1840. Elle symbolise le type de la grisette sous la monarchie de Juillet, en tant justement que modèle de féminité dépolitisée. Et elle renvoie aussi cette Mimi Pinson, donc, à travers cela, à ce modèle de petite ouvrière de la couture qui court dans les lilas, légère en compagnie d'un homme dans la laitière de Montfermeil, et dans d'autres œuvres de Paul de Kock. Et le paysage qui entoure la guinguette dans le film est d'ailleurs représenté comme un paradis de verdure, un asile pour les citadins en sortie les jours de beau temps, qui viennent se libérer par la course, par la danse, par la promenade en barque, par les pique-niques, etc. Donc les personnages trouvent refuge dans un décor enchanteur recomposé, à la manière de répliques, d'images rassurantes et surannées, tirées de productions littéraires et culturelles du passé. Ces répliques, là aussi, finalement, gardent une fonction rassurante de détournement des dysfonctionnements du présent, des malheurs d'ailleurs du présent, qui sont esquissés seulement au début du film, puisqu'à travers ce chômage des ouvriers, il est bien question de crise économique, de chômage et de problèmes de mal logement. Mais c'est comme si tout cela avait disparu une fois qu'ils se retrouvent sur cette île de Nogent-sur-Marne. Les deuxième et troisième formes de mémoire de la partie de campagne qui m'intéressent sont enfin spécifiquement associées au souvenir de Paul de Kock et s'étendent de la fin du 19e siècle jusque dans les années 30. Et ce sont une mémoire à la fois culturelle et une mémoire locale. Elles me sont apparues parce que je me suis interrogée sur ce que la littérature peut faire à un espace ou à un lieu. Comment elle peut agir ? Si Paul de Kock a tant écrit sur Romainville et ses environs, est-ce que ses écrits ont eu des effets dans et sur cette banlieue ? Alors je vais commencer par la mémoire culturelle. Depuis le temps de Paul de Kock, le secteur du bois de Romainville connaît des transformations importantes au cours du 19e, entre 1820 et 1850. Donc il y a une opération de lotissement du bois qui est destinée à des maisons de villégiature pour les Parisiens. 1840-48, c'est la construction du fort du Bois de Romainville. Ensuite, 1870, la guerre franco-prussienne a entraîné certaines destructions dans le bois. Et cette seconde moitié du 19e siècle, c'est un moment justement où les romans de Paul de Kock vont faire l'objet de relectures documentaires, testimoniales, et qui vont circuler sur différents supports. Il va être relu comme le dernier témoin de la banlieue dans son état originel, un état campagnard épargné par l'urbanisation et l'industrialisation. Ces scènes de plaisir champêtre vont être remémorées, non plus comme des scènes de fiction, gentiment comiques, mais comme des documents sur les mœurs de la petite bourgeoisie parisienne et sur la banlieue dans les années 1820-1830. C'est le cas sous la plume de critiques et écrivains comme Théophile Gautier, Eugène de Mirecourt, Zola, et jusque dans les années d'ailleurs 20 et 30 sous la plume de la journaliste Blanche Vogt. Et je peux citer en exemple Eugène de Mirecourt qui, dès 1855, prétend que Paul de Kock a su garder la trace du bonheur des citadins dans les environs de Paris. Et les folles promenades à Romainville, auprès Saint-Gervais, sous les lilas, dans les champs, le long des sentiers sablonneux, et les éclats de joie, les sauts, les gambades, les culbutes sur l'herbe, où retrouverez-vous tout cela, si ce n'est dans les romans de Paul de Kock? Le même type de lecture testimoniale se retrouve d'ailleurs dans des guides historiques des environs de Paris, qui paraissent dans la seconde moitié du 19e siècle et notamment dans des guides de Émile de la Bédelière et de Louis Baron. Ces ouvrages retracent l'évolution des communes qui ont été marquées par le repli d'activités agricoles, justement du fait de l'expansion de l'industrie, du commerce et de la villégiature. Et par exemple, Louis Baron va dresser avec nostalgie l'histoire de ce qu'il appelle la banlieue de Paul de Kock, qui englobe Romainville, les Lilas, les Prés Saint-Gervais. Les récits de Paul de Kock prennent pour lui valeur d'archives du passé campagnard de cette région de la périphérie, représentée comme un Eldorado. Romainville, les Lilas, les Prés Saint-Gervais, Bagnolet, villages naguère paisibles et charmants, pleins de fleurs, de rires, d'amour, de chansons. On courait au printemps, les sentiers verts où les grisettes embaumaient leur corsage des lilas fleuris aux charmilles. Des guinguettes sous leurs tonnelles tapissées de vignes vierges et de chèvrefeuilles recevaient les promeneurs affamés et fatigués, ceux du moins qui n'aimaient pas à dîner sur l'herbe. Une gibelotte les rassasiait, un coup de vin bleu les allumait, les refrains éclataient au dessert comme des fusées de gaieté insouciante. Ce passé déjà légendaire se reflète dans les romans de Paul de Kock, mais il n'en reste plus trace sur le plateau flétri de Romainville. La spéculation, la misère, l'industrie, la guerre, la politique ont changé la campagne heureuse en banlieue lépreuse. Ce qui est intéressant ici, et avec justement Eugène de Mirecourt juste avant, c'est que la frontière est poreuse entre la convocation d'un passé qui aurait réellement existé et la fiction, voire la légende, puisque le propos de Mirecourt et puis la description du guide ici reprend comme à l'identique les attributs, ou les plaisirs et les décors des échappées dominicales qui étaient représentées dans les romans. La banlieue ressemble plus à un paradis perdu, mythifié, idéalisé avec le recul du temps à travers ses convocations de parties de campagne de Paul de Kock. Et j'en viens justement donc à la question de la mémoire locale et politique de Paul de Kock. En effet, les parties de campagne coquiennes vont être réappropriées entre la fin du 19e siècle et l'entre-deux-guerres. Une mémoire de Paul de Kock et de ses parties de campagne va se construire dans des communes de banlieue ou ex-communes de banlieue comme Belleville, présentes dans ses romans, et donc principalement Romainville, Les Lilas et Montfermeil. Cette mémoire se forme en plusieurs temps, je vais surtout me concentrer sur Montfermeil. Donc sous la Troisième République, en fait, cette mémoire elle se traduit par des changements toponymiques, c'est-à-dire l'attribution de noms de rue Paul de Kock aux Lilas et à Romainville. Des projets d'édification de statues à l'effigie de Paul de Kock, et ça va être aux Lilas et à Romainville. Et ensuite, dans les années 1930, autre forme que peut prendre cette mémoire, c'est l'organisation de commémorations déguisées dans le cadre du centenaire du romantisme à Montfermeil et à Romainville. Et à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est justement ce sur quoi porte le regret de Paul de Kock. Quelle est la signification de cette réappropriation locale ? Et en effet, pour réinterpréter ces nostalgies politiques dont les récits de Paul de Kock font l'objet, souvent il faut en passer par une sorte de micro-histoire de ces communes de banlieue. Donc je vais évoquer brièvement ces deux exemples, les projets de statut, donc fin 1890, début 1900, et la fête des années 30. Donc d'abord, pour ces projets de statut, en fait, ce que je comprends, c'est que la figuration du bonheur en banlieue verte forgée par Paul de Kock va se retrouver au cœur d'une concurrence, voire d'une bataille de mémoire, entre deux territoires très liés que sont les Lilas et Romainville. Ça se joue donc pendant la Troisième République, période pendant laquelle le gouvernement lance l'installation de sculptures monumentales en hommage à certaines grandes figures politiques et littéraires, donc comme par exemple Victor Hugo ou Lamartine. Pourtant, aux Lilas, c'est Paul de Kock, hein, écrivain conservateur, qui n'a jamais porté de drapeau politique, que la municipalité républicaine met en avant avec un projet de statut en 1895 et qui verra d'ailleurs seulement le jour en 1928. Pourquoi les Lilas? Parce que donc ce nom n'apparaît jamais dans les romans de Paul de Kock. En fait, les Lilas, c'est une municipalité qui a été créée en 1867 sur une partie du bois de Romainville, une partie du bois qui a été lotie. Et donc les Lilas va revendiquer l'héritage des parties de campagne et lancer en 1895 cette édification de statut. Je ne sais pas exactement pourquoi le projet a avorté, hein, ça je n'ai pas vraiment retrouvé. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en 1928, là, ce projet d'édification de statut est porté en revanche par des personnalités plutôt d'extrême droite. Hein. D'ailleurs, il va y avoir une sorte d'association des amis de Paul de Kock qui est créée en 1926 et qui va organiser beaucoup de galas, notamment à Belleville, pour récolter des fonds pour édifier cette statue. Et parmi cette association, on retrouve le journaliste Maurice Hamel et surtout le président d'honneur qui est Clément Vautel, donc qui est journaliste et romancier d'extrême droite. Et donc ils vont vouloir revaloriser cette mémoire de Paul de Kock justement pour la dimension conservatrice de ses écrits, c'est-à-dire le fait de ne montrer la société qu'à travers ses plaisirs grivois, cette joie de vivre qui n'a justement rien d'inquiétant socialement et politiquement. D'autre part, en 1901, c'est Romainville qui parvient, elle, à inaugurer sa statue. Et là aussi, donc, comment comprendre ces valorisations locales de Paul de Kock, ces deux projets de statue entre les Lilas et Romainville dans ces débuts des années 1900? En fait, c'est que les Lilas et Romainville se sont industrialisés au cours du 19e siècle et du début du 20e siècle, ce qui a attiré une population ouvrière qui a remplacé le peuplement bourgeois de villégiature. Donc on peut faire l'hypothèse que face à la vitesse de l'urbanisation et de l'industrialisation, les municipalités se sont appuyées sur l'univers joyeux des parties de campagne de Paul de Kock pour affirmer l'identité de leur commune, une identité heureuse pour faire oublier la présence des usines. Et c'est une période où se développe d'ailleurs ce que l'historien Emmanuel Bélanger appelle le patriotisme de clocher en banlieue, c'est-à-dire le fait que des fiertés municipales se jouent justement lors de ces fondements d'identité communale dans la première moitié du XIXe siècle. Et Paul de Kock est en quelque sorte l'écrivain disponible pour jouer ce rôle, puisque finalement, au cours du XIXe, c'est celui qui a tant écrit sur le bois de Romainville. Deuxième exemple de réappropriation politique de Paul de Kock, hein, enfin un petit bond dans le temps, donc c'est des questions des commémorations, des reconstitutions de fêtes champêtres. Donc, il y en a à l'occasion du centenaire du romantisme à Montfermeil en 1930, mais je vais surtout parler de celle de 1933 à Romainville. Donc la municipalité va organiser toute une procession costumée avec des types littéraires et sociaux des années 1830. Il y a eu plusieurs journaux qui en ont parlé de cette fête du centenaire Paul de Kock à Romainville. Donc on voit des femmes en robe fleurie qui représentent certainement donc les attributs des femmes en partie de campagne. On a des cavaliers et on a aussi donc un homme déguisé en Paul de Kock entouré de grisettes. Il y a aussi un char au cours de cette procession qui transporte un moulin, comme pour rappeler le passé rural de Romainville. Et la journée va se terminer par un bal. Et là aussi on peut interroger l'objet de ce souvenir, hein, pourquoi commémorer cet écrivain et son univers conservateur. Elle peut s'interpréter, cette fête romantique, en termes de tactique politique. Donc le maire qui défile pendant la fête et qui organise cette fête, Louis-Victor d'Argent, est élu depuis 1909 à Romainville, issu d'une famille bourgeoise romainvilloise. Il est membre du Parti républicain radical et il est menacé par le Parti communiste qui est en pleine expansion dans les banlieues voisines. L'idée de menace communiste est alimentée par les problèmes de développement de lotissements défectueux à Romainville, qui démarre dans les années 1920 et qui n'est pas réglé dans les années 1930. Le nombre de mal logés, que l'on surnomme à l'époque mal lotis, concerne une bonne partie des habitants à Romainville à la fin des années 20, d'après l'historienne Annie Fourcault. Donc le maire de Romainville est confronté à un manque de logements décents et aussi d'infrastructures adéquates pour la population ouvrière qui réclame plus de services pour favoriser leurs conditions de vie. Cette décision municipale de fêter Paul de Kock peut représenter un moyen de détourner la population de ses problèmes d'aménagement du territoire dans un contexte de lutte électorale tendue. La célébration d'une belle image de l'ancien village, paradis de citadins, à travers la figure coquienne, peut être vue comme une sorte de cache-misère du quotidien ou des dysfonctionnements urbains et sociaux du présent. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même difficile de savoir ce que les personnes qui défilaient savaient de Paul de Kock. Enfin, est-ce qu'ils l'ont vraiment lu ? Enfin, est-ce qu'il y a une sorte de souvenir local que, oui, Paul de Kock est l'écrivain de Romainville, mais ont-ils conscience vraiment de la dimension politique, conservatrice de ses écrits ? Ça, c'est difficile à dire. Donc, je ne veux pas non plus prêter une intention à la municipalité en prétendant, en avançant cette interprétation politique. Donc il y en a une autre qui est possible, hein, qui est plus culturelle, c'est-à-dire de considérer que Paul de Kock a pu être choisi pour cette fête romantique, justement parce qu'il est le seul écrivain à avoir tant écrit sur le bois et sur ses agréments, et à avoir figé, façonné cette image d'un paradis terrestre propice à la liberté. Et donc cette littérature serait utilisée dans ce cas-là par la municipalité pour se construire un passé face aux mutations continue de la commune, et peu importe cette dimension conservatrice distillée dans l'œuvre de cet écrivain. Et ce qui est intéressant, quoi qu'il en soit, de toute façon, j'ai l'impression que ces interprétations, elles coexistent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment des histoires d'escapades champêtres sont mises à l'honneur en tant qu'emblème d'un âge d'or de Romainville, qui sert à construire un patrimoine culturel local et à consolider une identité positive d'une commune de banlieue. C'est ce processus-là, en fait, que je trouve intéressant. Enfin, donc, pour conclure ce parcours, donc voilà, je veux dire que mon histoire du bonheur, en fait, elle se décompose en plusieurs histoires. Hein. Une histoire de forme narrative, une histoire d'écriture comparée à d'autres écrits, une histoire de la figuration polysensorielle de la banlieue, donc, s'intéresser à comment cette banlieue est décrite par ses odeurs, ses paysages, ses accessoires, les activités que les personnages font. Et pour comprendre ces évolutions, il est nécessaire aussi de déplier et déployer des savoirs historiques variés, et j'ai essayé d'en évoquer quelques-uns. Hein. Donc il y a une histoire sociale, l'histoire urbaine, l'histoire industrielle, l'histoire du flirt et de la sexualité, l'histoire de l'éducation des jeunes filles, l'histoire des loisirs, l'histoire environnementale. Il y en a effectivement d'autres au cours de mon raisonnement, au cours de la thèse. La lecture diachronique de cette histoire littéraire du bonheur donc, révèle des continuités dans les motivations des personnages, dans les activités recherchées, mais aussi dans des émotions. Des continuités certes, mais aussi des nouveautés, et puis des absences, des effacements, comme l'effacement et l'absence de paysans au cours du temps, dans la mise en récit du bonheur. Et aussi, comme je l'ai montré en fin de partie, donc l'apparition de formes de mémoire particulières du bonheur en banlieue. L'histoire du bonheur en banlieue implique aussi justement une historicisation des usages sociaux, culturels, politiques de la littérature, et en particulier de la littérature populaire, qui s'avère féconde quand on s'intéresse aux effets qu'elle produit sur des lieux. Donc, là, j'ai résumé certains aspects de ma thèse à gros traits, mais je veux ajouter pour finir que le bonheur dans la partie de campagne que j'ai dépliée ici, hein, en fait, n'est pas le même ensuite quand on regarde l'histoire littéraire de la retraite en maison de campagne que j'étudie dans la thèse, et c'est pas le même bonheur non plus, ni les mêmes expériences de bonheur quand on regarde l'installation pavillonnaire dans les lotissements de banlieue durant l'entre-deux-guerres. pour merci de m'avoir écouté.
Merci. Et maintenant à Montfermeil.